Bonsoir à tous et bienvenue dans l'œil de Sab sur Fréquence Mistral. Ce soir, nous recevons une voix que vous avez découvert en 2022 et qui a ému la France entière lors de son passage dans l'émission La France, un incroyable talent. Quel plaisir de le revoir. C'est déjà la troisième fois qu'il nous fait cet honneur. Il est là ce soir pour un moment important, car il est là pour donner une voix à toutes les femmes. À travers son titre fort et poignant, il nous l'a prise. Alexis Hoffmann, bonsoir.
Bonsoir Sabrina.
Comment ça va?
Ça va très bien, merci.
Alexis, vous ne serez pas seul dans cette émission. Pour ce moment si important, nous avons souhaité parler des violences conjugales. Pour cela, Sandrine nous a rejoint. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir Sabrina.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Je vous en prie, merci à vous.
Alors, votre histoire est un témoignage bouleversant et nous espérons qu'il pourra donner le courage à d'autres femmes de parler et de se reconstruire. Et nous avons également la grande chance de pouvoir compter sur la présence de Princesse Josépha Malherbe, fondatrice de l'association Henriette, la voix d'un ange. Bonsoir Josépha.
Bonsoir Sabrina.
Oh, merci beaucoup d'être présente parmi nous. Merci, c'est un honneur.
Merci à vous.
Alors, ce soir, ensemble, nous allons parler de courage, de reconstruction et d'espoir. Parce que ce soir, on ne parle pas de talent, on parle de vie. Alexis, merci beaucoup de votre confiance. Plantons le décor, commençons par le début, votre enfance. Vous dites avoir grandi dans une famille plutôt aisée. C'est une période où vous faisiez de la batterie, de l'équitation.
Oui, exactement, oui. Étant plus jeune, étant tout petit, j'ai été bien gâté, j'avais tout ce qu'il fallait. Voilà, j'ai attaqué la batterie à l'âge de 3 ans, l'équitation aussi, pareil, au même âge.
Alors, entre la batterie et l'équitation, deux univers très différents, lequel vous apportait le plus de liberté, d'évasion à cette époque?
Sincèrement, les deux. C'était différent. Le sport que je faisais, c'était avec des animaux, donc c'est très enrichissant. Et puis la batterie, c'était la musique. J'étais aussi une façon d'être libéré aussi. Et un instrument qui me convenait bien, puisque j'étais tellement petit qu'on ne me voyait pas. Donc, c'était bien pour moi.
Quand vous étiez enfant, dans ce bel environnement, qu'est-ce que vous rêviez de devenir plus tard?
Sincèrement, quand j'étais petit, franchement, je voulais faire avocat.
Avocat?
Ouais.
Et pas voilà. Chanteur?
Non, j'ai toujours, quand on était plus petit, au début à l'école, on nous demande souvent qu'est-ce qu'on veut faire. Et pendant des années jusqu'au collège, j'ai toujours voulu faire ça. Je suis quelqu'un qui, je ne sais pas, peut-être au fond de moi, n'aime pas l'injustice. Et j'aime bien, voilà, c'est ce qui me plaisait quand j'étais plus petit. Ouais.
Alors, vos parents se sont séparés quand vous aviez 6 ans. Vous avez continué à vivre avec votre maman dans une belle maison jusqu'à vos 12 ans. Ouais. Quel est le souvenir le plus marquant, le plus doux que vous gardez de cette période passée dans cette maison?
Oh, j'ai passé des bons, des moins bons moments, parce que c'est vrai que une séparation, c'est jamais, quand on est enfant, rigolo. Mais c'était une belle enfance jusqu'à encore ces années. J'ai jamais manqué de rien, voilà, je continuais la musique, continuais l'équitation, j'avais une vie plutôt épanouie, voilà, rien de particulier quoi.
Et c'est à l'âge de 12 ans, si je me trompe guère, que la vie a pris un nouveau tournant et que vous êtes installé dans un mobil-home au sein d'un camping.
Oui, c'est ça. Après, à l'âge de 12 ans, en fait, j'ai ma mère qui au niveau financier a eu des soucis, hein, voilà, et on s'est retrouvé quasiment, c'est du jour au lendemain, sans rien du tout, voilà. Donc on est parti habiter dans un mobil-home.
Dans le sud de la France.
Oui, dans le sud de la France, je peux donner la ville, c'était à côté de Hyères, voilà, c'est une ville pas très loin de Toulon. Donc on est allé habiter, voilà, dans un mobil-home, tous les deux, nous avions deux chiens, et donc voilà, avec nos deux chiens. Et puis voilà, la vie a vraiment, pour moi en tant qu'enfant, là ça a basculé, ouais. À ce moment-là, oui.
Pourriez-vous nous expliquer, en fait, comment, surtout, comment vous avez vécu ce changement de vie d'un point de vue psychologique ?
Psychologiquement, je commençais à me renfermer sur moi-même. C'était de plus en plus difficile, l'école. On ne veut plus trop inviter de copains. On a un peu honte. Voilà, c'est un peu particulier. J'étais jeune, mais je sais que j'ai encore des séquelles. Enfin, j'ai encore des moments qui, des fois, me reviennent comme ça dans la tête. Il faut se dire, tout est beau, tout est rose. Vraiment, on n'est vraiment pas au top, mais on est au top. Et du jour au lendemain, on finit pas au plus bas, mais quasiment. Donc, c'est vrai que psychologiquement, c'est pas facile. Faut essayer de se reconstruire. Et je pense que, quelque part, ça m'a aidé à me construire aussi pour après, pour la vie.
Est-ce que c'est là que votre maman a fait la rencontre que celui qui allait devenir votre beau-père ?
Oui, après, donc, on est resté quand même des années, hein, dans ce camping, je vais en parler, parce qu'au final, ça devait être quelque chose de temporaire, et finalement, c'est resté pendant des années. Au bout de 2 ans, oui, 1 an et demi, 2 ans, ma mère, après, a rencontré quelqu'un là où on habitait, parce qu'il faut savoir que c'était un camping où on pouvait habiter à l'année. C'est pas un truc où on est là que pour quelques mois.
Voilà, ce n'est pas un camping de vacances.
Ah, pas du tout, il n'y a pas de piscine, c'est pas un camping idyllique, hein, c'est pas, voilà. Et donc du coup, elle a rencontré mon beau-père, ils se sont mis ensemble, mais du coup, nous avons déménagé de 2 parcelles, vous voyez. Donc on a déménagé de 40 mètres, voilà.
D'accord, donc votre beau-père ne vivait pas du tout sous votre toit.
Non.
D'accord. Mais quand même, il y a eu quand même un accident où, en voulant défendre votre maman, vous avez été frappé par votre beau-père.
Oui, en fait, après, donc, au début, tout va bien. Au début, tout est beau, tout est rose. Hein. De toute façon, souvent dans beaucoup de relations, ou même tout va bien. Puis au fur et à mesure du temps, ça se dégrade par un petit truc, puis autre chose, puis encore, puis encore, puis encore. Et puis, moi, je voyais qu'il y avait des comportements. Donc là, je commençais à être un peu plus adolescent. J'avais déjà 14, 15 ans. Voilà, j'étais un peu plus, déjà un peu plus grand. Et je voyais ces excès de colère, cette casse, même à casser des choses. Je voyais bien qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas. Enfin, surtout que moi, j'avais jamais connu ça. Donc voilà, jusqu'au jour où j'ai vu vraiment qu'il allait un petit peu trop loin, j'ai voulu m'interposer. Et c'est là où, bien sûr, j'ai reçu un premier coup. Mais au lieu de rester à genoux, moi, je me suis relevé parce que je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, ce caractère qui m'a forgé et qui m'a rendu peut-être plus fort. Du coup, moi, j'ai répondu. Alors, pas en physiquement, mais dans le sens de lui dire que je n'avais pas peur, que je n'étais pas, voilà, que si en fait il voulait, il pouvait recommencer, voilà. Puis ça s'est calmé. Après ça, je pense que d'avoir mis le holà de suite, ça, du moins avec moi, ça a bloqué la chose.
Mais on a l'impression que votre maman ne réalisait pas encore peut-être la véritable nature et l'ampleur du danger qui le représentait. Parce que malgré tout, elle a fini par prendre la décision de partir vivre en Normandie avec son compagnon.
Oui, après les années ont continué. Au fond de soi, on est là, on voit, on ressent. Mais on pose, vous savez, quand on pose la question hein, même à quelqu'un qu'on connaît très bien ou même sa mère, qu'elle vous dit oui, oui, tout va bien, oui, ça va, oui, non, mais t'inquiète, c'est normal, c'est... Bon, après, voilà, il n'y a pas d'excuse. Il y a aussi l'adolescence, 15 ans, 16 ans, 17 ans. On est un peu dans un autre monde, ses copains, c'est ci, c'est là. Donc, on a une vie un peu... Bon, puis voilà, la vie passe. Et jusqu'à ses 17 ans et demi, où ma mère m'annonce qu'elle va partir avec mon beau-père en Normandie. Elle me propose de venir avec eux. Mais sauf que moi, je fais des études. J'avais commencé à faire des études et je ne voulais pas arrêter. Je ne voulais pas arrêter et je voulais garder ma vie aussi que j'avais, mes amis. Je suis né ici, je suis né à Toulon, je suis toulonnais, j'ai vécu que là. Donc, Je voulais vraiment rester là, donc elle m'a dit bah, « Ok, pas de souci, on va trouver une solution. » Donc, je suis resté à l'âge de 18 ans à vivre tout seul dans mon mobilhome. Voilà, un mobilhome de je ne sais plus combien de mètres carrés, mais pas très, très grand. Et voilà, 18 ans, j'ai pris mon envol vraiment seul. Et ma mère est partie en Normandie avec mon beau-père.
Alors, une fois là-bas, donc en Normandie, les violences ont pris une nouvelle dimension. D'après ce qu'elle a pu vous confier, il y a eu les violences psychologiques. Les objets cassés, c'était une escalade progressive.
C'était une escalade progressive. Et puis, en fait, après, j'ai su, après quelques années, et des fois, on le sait pas de suite. Alors, je m'en suis toujours douté parce qu'il faut savoir, c'est que c'est moi qui lui en ai parlé en premier à ma mère, qui ai osé, en fait, qui a voulu lui parler. Et en fait, il n'y a que quand je lui ai parlé qu'elle s'est confiée. Voilà. Sinon, elle ne s'était jamais confiée. Pour elle, tout allait bien. Mais je l'ai tout de suite, j'ai tout compris. Après, il y a eu des choses qui sont arrivées. Donc, elle m'a expliqué des choses où ma mère est allée porter plainte. Hein. Il y a une main qui a été... une plainte qui est déposée. Elle m'a raconté tout ce qui s'était passé. Mais après, en fait, hein, c'est moi, tout ça, quand elle était là-bas, malheureusement, je ne le savais pas.
Alors, pourquoi il y a eu une plainte? Que s'est-il passé?
Ah ben, un jour, elle a cru mourir. Et ce jour-là, elle s'est dit « Stop, je ne peux plus, c'est pas possible. » Voilà, mon beau-père avait pris un cendrier énorme, là, les gros cendriers en verre qui existent, là, les trucs très, très gros. Il lui avait lancé dessus, il est passé à quelques centimètres de son visage. Il s'est explosé contre la cheminée. Et en fait, elle s'est dit « Si je l'avais reçu en pleine tête, je serais peut-être plus là, quoi. » Donc, de ce jour-là, elle était portée plainte. Après, il y a eu une interdiction de l'approcher et tout. Et en fait, pendant cette interdiction, donc elle s'enfermait la nuit avec des cadenas en plus et tout, de peur qu'il puisse venir et tout, parce que c'était quelqu'un qui buvait beaucoup, qui avait des sauts d'humeur, en fait. Des fois, d'un coup, ça pouvait monter. Et voilà, en fait, elle a préparé sa fuite et un jour, elle est partie à 2h du matin de Normandie et elle est revenue avec une caravane. Donc là-bas, elle vivait en maison, elle avait acheté une caravane et tout. Entre-temps, elle avait acheté une caravane, elle est revenue ici dans le sud de la France avec une caravane. Elle m'a appelé, elle m'a dit sur la route, j'arrive. J'y vais, pourquoi ? Enfin, voilà, et elle est vraiment revenue comme ça du jour au lendemain.
Alexis, regardez-moi.
Oui.
Nous avons reçu un message vocal pour vous et j'aimerais que vous l'écoutiez. Est-ce que c'est possible, hein?
Oui.
Je suis très fière de toi. Sincèrement, je souhaite que tu t'épanouisses dans ta passion. Tu as tous les atouts pour bien évoluer. Je serai toujours là pour toi dans tes choix de vie ou de passion. Pour moi, l'essentiel, c'est ton bonheur, surtout auprès de Lucie, Léo et Hugo. Je vous aime très fort. Tu es très doué. Tu as su composer de belles chansons comme « Je m'en rappelle » et « Dis-lui » entre autres. Tu m'as fait découvrir le bon rap « Imagine » de Carbone. Je vous souhaite à tous une très bonne émission et aussi merci à Sab pour son émission et son investissement devant cette triste réalité. Mesdames, vous avez tout mon soutien dans ce dur combat. Il faut que ça bouge.
Alexis, en entendant la voix de votre maman, ces mots, qu'est-ce que vous ressentez à l'instant même?
Je suis ému. Ça me fait plaisir, ça me fait extrêmement plaisir. Je sais, elle me l'a déjà dit aussi, mais voilà, je ne m'y attendais pas. Mais je sais que ça n'a pas été facile aussi pour elle. Donc voilà, je sais qu'elle est très forte aussi, très forte de caractère. Mais des fois, on peut être très fort et voilà, on peut avoir aussi besoin des autres et il faut être là.
Vous êtes ému. Hein?
Oui, merci. Oui.
Parlons de votre titre, Il nous l'a prise. C'est une chanson très forte sur les violences conjugales. C'est un combat que vous avez choisi de porter avec beaucoup de conviction. Nous savons qu'au-delà de la chanson, vous êtes personnellement engagé sur ce sujet suite au vécu de votre maman. Et ce qui rend ce titre unique, c'est aussi le fait qu'il a été écrit, composé et produit par le rappeur L.I.M., une figure emblématique du rap français, connue pour aborder des sujets de société difficiles. Et pour parler de ce titre, il nous l'a prise. Nous allons tenter de joindre son auteur, L.I.M., au téléphone. Oui, bonsoir L.I.M., ici L'Œil de Sab pour Fréquence Mistral. Vous allez bien?
Oui, ça va bien, et vous, comment vous allez?
Oui, c'est très bien, très bien. On parlait justement de votre titre. Vous êtes auteur, compositeur et producteur du titre Il nous l'a prise. On sait que vous avez écrit...
c'est bien ça.
On sait que vous avez écrit cette chanson avant même de rencontrer Alexis. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire un texte aussi puissant sur les violences conjugales?
Bah, c'est surtout ce combat-là qui me tient vraiment à cœur. Pour moi, je considère tout ça comme un gros fléau et que l'objectif, c'est d'essayer d'en parler et de briser le silence, quoi.
Mais aborder des thèmes aussi sombres peut être lourd. Quel est l'impact émotionnel sur vous en tant qu'auteur de devoir vous plonger dans ces réalités pour écrire?
Bah, l'impact, c'est surtout qu'est-ce qu'on entend tous les jours dans les médias, à la radio, à la télé. Quand on voit les statistiques, tout ça, c'est quelque chose de... Moi, c'est quelque chose qui me trouble énormément.
En tant qu'artiste, vous sentez-vous une responsabilité particulière à être la voix de ceux qui ne peuvent pas parler?
Bah, en tant qu'artiste, déjà, on essaie d'être notre propre porte-parole, déjà. Déjà, et l'objectif de nos musiques, tout ça, c'est vraiment pour... voilà, essayer de parler à la place de ceux qui n'osent pas, ceux qui peuvent pas, parce qu'on sait très bien comment c'est dans ces histoires-là. Beaucoup restent dans le silence et se réfugient dans le silence.
Pour vous, quel est le message le plus important de cette chanson?
Bah, le message le plus important, c'est que d'essayer de se rendre compte du mal que ça fait, toutes ces histoires-là, des histoires de violence conjugale, de féminicide. À la base, ça part d'une histoire d'amour pour ensuite finir faire par la guerre. C'est quand même, moi je trouve ça, voilà, c'est le message principal, c'est voilà, faut mettre un stop à tout ça.
Absolument. Et pour finir...
Absolument, surtout quand on voit tout ce qui se passe actuellement, déjà, par exemple, quand on regarde les statistiques, en 2025, on est déjà à plus de 81 féminicides. C'est quand même énorme. C'est déjà, un, c'est beaucoup. Alors là, c'est énorme, c'est un fléau qu'il faut vraiment essayer de parler de ça, ne pas hésiter à mettre en avant toutes les associations qui défendent ce truc-là, et voilà, tout simplement.
Qu'est-ce qui vous a plu chez Alexis pour qu'il puisse justement porter cette chanson, la chanter comme ça, haut et fort?
Bah, Alexis, moi, ce qui m'a plu déjà, c'est un ami à moi, c'est Foued, un ingénieur du son du studio Meruem qui se trouve à Toulon, qui m'a parlé d'Alexis. Je lui ai fait écouter la chanson. Il m'a dit, tiens, je connais quelqu'un, il a une voix exceptionnelle et tout. Il m'a parlé d'Alexis. Je dis, ah si, je vois c'est qui. Après, j'ai écouté ses trucs et tout. Et je me suis dit, mais c'est la personne parfaite pour interpréter ça. Avec toutes les émotions qu'il dégage, tous les trucs, sa qualité vocale, pour moi, c'était l'idéal. C'était destiné, on va dire.
Et pour finir, on aimerait bien sûr avoir un mot sur votre actualité. Quels sont vos projets en cours?
Mes projets en cours, là, je viens de sortir un concept qui s'appelle Disque dur volume 2 qui est sorti hier sur toutes les plateformes. C'est des morceaux qui dormaient dans mes disques durs que je mets à disposition aux fans. Sinon, j'ai un truc qui arrive début octobre qui s'appelle 100% Freestyle. On peut retrouver la plupart de la crème du rap français dessus. Et j'ai un gros album qui arrive en novembre, tout simplement.
Bon, on va jeter un œil à tout ça parce qu'on vous adore. Alors évidemment... Beaucoup de monde, si vous savez, on a eu beaucoup de retours sur vous, L.I.M.
Ah, c'est gentil, merci.
Alors, dans le studio de Fréquence Mistral, nous avons Sandrine. Elle a un témoignage bouleversant. Dans quelques secondes, elle va nous en parler. Et il y a aussi la présidente de l'association, Josépha Malherbe. Je peux vous appeler comme ça, princesse?
Oui, princesse Josépha Malherbe.
Elle représente une grande association, justement. Et j'espère que vous allez écouter cette émission, vraiment.
Bah, je suis connecté là sur Internet. J'arrive à me connecter vu que je suis à l'étranger. J'écoute ça sur Internet et ça va, ça se passe bien. On va écouter tout ça, on va suivre. Et surtout, ce que je voudrais dire à toutes ces associations, c'est les féliciter déjà pour le travail qu'elles puissent accomplir, parce que c'est pas évident tous les jours de se battre contre de ça, de recevoir des personnes qui nous donnent des témoignages très très qui nous impactent personnellement. Voilà, faut surtout avoir de la force et je pense que c'est méritant. On devrait tous les applaudir haut et fort.
Absolument. N'oubliez pas le nom de l'association Henriette, la voix d'un ange, représentée par Princesse Joséphine Malherbe, surtout. Voilà.
Ok, parfait.
Un grand merci, LIM, pour ce moment. On va...
Allez. Je
Allô?
vous remercie beaucoup et vous m'entendez?
Et
Je
on
vous
vous
remercie
entend.
beaucoup et je vous souhaite une bonne fin d'émission et que tout se passe très bien pour vous.
Un grand merci. Et bah justement, on va écouter votre titre, Il nous l'a prise, dans un instant.
Ok, merci beaucoup et à bientôt.
À très bientôt. Au revoir. Allez, on se fait une petite pause musicale. On va écouter le titre, Il nous l'a prise. Alexis, un petit mot pour cette chanson.
Déjà, je voudrais ouais, moi aussi remercier toutes les personnes qui sont là, Sandrine, Josépha, voilà, et LIM. Et voilà, j'espère que ce titre va être entendu, bien écouté. Voilà.
Allez, c'est parti, on écoute le titre. Il nous l'a prise, écrit et composé par LIM et interprété par Alexis Hoffman.
Elle tombe amoureuse, elle rêve d'une vie fabuleuse. Fonder sa famille, il en faut peu pour être heureuse. Mais quand l'amour frappe, on ne comprend pas. Et quand ça dérape, on ne l'entend pas. Elle est devenue peureuse, nerveuse, malheureuse. Avec lui, la moindre petite chose est dangereuse. À chaque fois, ça recommence et ça n'arrête pas. Sortir du silence, c'est un long combat. Il nous l'a pris. Par cette violence qu'on ne peut plus accepter. Elle garde le sourire mais ça ne va pas. Comment nous le dire si on ne l'écoute pas? Elle a le cœur abîmé, mal aimé par son bien-aimé. Quand l'amour donne la mort, personne ne peut le réanimer. Pour pouvoir la revoir, je fais n'importe quoi. À l'heure où je vous parle, elle n'est plus là. Il nous l'a pris. C'est trop tard, elle nous a quittés. Parfois la fiction dépasse la réalité. Il nous l'a prise. Il nous l'a prise. Il nous l'a prise. Elle crie, elle pleure de tout son cœur, j'ai peur. Pourtant personne répond à son appel. Elle se retrouve toute seule. Elle se retrouve toute seule. Elle vit, elle meurt.
Waouh, l'émotion est là. Hein.
Merci beaucoup.
Mais franchement,
c'est vrai.
C'est très gentil, merci.
Alexis, on parle beaucoup du courage des femmes, mais il y a aussi le courage des hommes qui sont témoins ou qui subissent eux-mêmes des violences. Quel message aimeriez-vous leur adresser ?
Bah, c'est pas facile, c'est ce que disait tout à l'heure Eliem. Je pense que c'est quelque chose qui reste beaucoup dans le silence. Les gens se renferment beaucoup sur eux-mêmes. Même les personnes qui peuvent être à côté en même temps, c'est très compliqué. Je sais pas, après, je pense qu'il y aura des personnes comme Sandrine qui expliquera sûrement mieux que moi, mais je sais pas, c'est cette peur, je sais pas comment trop exprimer ça. Ça, c'est... voilà.
Sandrine.
Oui.
Merci infiniment d'être avec nous ce soir.
Je vous en prie.
C'est vraiment un immense courage de prendre la parole à l'antenne. Et j'aimerais que vous nous racontiez votre parcours avec vos propres mots. Alors, vous avez passé les 8 premières années de votre vie au Bénin et j'aimerais qu'on commence par là. Qu'avez-vous retenu de votre enfance dans ce contexte que vous décrivez comme de la violence contrôlée ?
Alors, d'un côté, il y a eu cet amour magnifique de la famille de mon papa béninoise. Et de l'autre côté, je me suis retrouvée seule face à une maman blanche du Nord, complètement déboussolée par le fait d'être sur un continent étranger et puis déboussolée tout simplement parce que je pense qu'elle avait un problème psychologique ou psychiatrique.
Et oui.
Voilà. Donc j'ai passé des années horribles de violence, mais maîtrisées parce qu'il y avait quand même le regard de ma grand-mère, mes tantes, mes oncles qui essayaient d'atténuer tout cela. Mais cela n'a pas duré puisqu'il a fallu rentrer en France après le décès de mon papa.
Donc là, à Paris, quand vous rentrez en France, plutôt...
On se retrouve à Marseille.
Là, vous avez à peu près 8 ans, 8 ans et demi.
8 ans et demi. Et là, c'est une violence inouïe, inimaginable. J'ai commencé par être privée d'un simple lit. Du coup, mon frère et ma sœur avaient une chambre... Ma mère en avait une et moi je dormais recroquevillée sur mes genoux dans une pièce sans fenêtre ou quand je faisais du bruit aux toilettes directement jetée sur le toilette à pleurer toute la nuit et quand je pleurais un peu trop ma mère sortait violemment de sa chambre et m'étranglait pour éviter que j'appelle les secours.
Vous avez enduré une violence verbale ?
Verbal, je n'avais pas de prénom. Donc, en fait, mes noms d'oiseaux, c'était chienne, guenon, mocheté, rejeton, viens manger dans ton écuelle. Des petites choses sympathiques. Quant à moi, je n'avais pas l'autorisation de l'appeler maman, puisque je n'étais pas reconnue comme enfant assez intelligente pour être la sienne, ni assez belle aussi. Donc, du coup, je n'avais pas droit du tout de l'appeler maman et c'était madame. Sinon, elle ne répondait pas ou elle répondait par un coup de pied magistral.
C'est incroyable. Vous écrivez quoi ? Comment l'enfant que vous étiez a-t-il pu, justement, du haut de ses 8 ans, accepter tout ça, que cela devienne même la norme ?
Je pense que j'étais dans le déni et puis ma mère était musicienne. Donc, tous les moments où j'étais punie, elle faisait l'hystérique sur son piano, elle composait des chansons, elle chantait à tue-tête. La musique était tellement belle que j'en oubliais la maltraitance. Et j'avais une échappatoire comme ça. J'étais pourtant la dernière de la classe, celle qui ne comprenait rien à rien et qui n'arrivait pas du tout à me concentrer. Donc, j'étais battue, j'étais en punition dans cette fameuse pièce sans fenêtre. Le noir était total. Par contre, à travers... Je pouvais entendre des belles choses musicales, ou mon frère et ma sœur jouer et chanter avec ma mère, ou sentir ne serait-ce que des odeurs de crêpes, de bonnes choses qui passaient sous la porte et qui me laissaient imaginer le goût que ça aurait pu être si j'avais eu droit d'en manger.
C'était son métier, être artiste ?
Elle a vécu de ça toute sa vie, elle ne savait pas faire autre chose que du piano.
Comment ces mots ont-ils affecté votre perception de vous-même à l'adolescence ?
Ben, j'ai pensé que j'étais différente des autres parce qu'il a fallu que j'apprenne à mentir toute ma vie. C'est-à-dire qu'à l'école, quand on me disait « Tu as passé un bon anniversaire ?» ou « C'était Noël, le lendemain Noël. Qu'est-ce que tu as eu comme cadeau ?» Il fallait toujours que j'invente pour essayer d'être un peu comme les autres. Je savais que je ne l'étais pas comme les autres. Puis j'avais des marques de strangulation. Il fallait que je m'invente un chat qui me griffait. On n'a jamais eu d'animaux. C'était très compliqué de mentir tout le temps.
Adulte,
je me sentais inférieure, en fait.
Toujours.
Toujours.
Et donc là, vous grandissez. Adulte, vos relations amoureuses ont malheureusement reproduit les schémas de votre enfance.
Ben, disons que j'ai cherché avant tout l'amitié à travers l'amour, la complicité, l'amour d'un frère, d'un père, d'un cousin, d'une famille que j'aurais pu avoir, mais que je n'ai eu que dans mes rêves. Parce qu'arrivée en France, plus du tout de famille. Toute la famille était au Dahomey, au Bénin. Et je me suis retrouvée seule ici, sachant que la famille de ma mère, qui était du côté de Paris, ne connaissait pas mon existence. Ils savaient que ma mère avait 2 enfants et pas 3. Elle n'avait jamais déclaré mon identité.
Et quand est-ce qu'ils l'ont su, finalement ?
Quand elle est décédée, j'ai trouvé dans son calepin le téléphone, les coordonnées de mon oncle, son frère. Je l'ai appelé, j'ai dit « Bonjour, monsieur ». Je suis votre nièce. Il m'a dit non, vous n'existez pas. J'ai dit, ben quand même, je suis la troisième, enfin l'enfant du milieu. Il a nié mon existence. Et puis j'ai essayé de me défendre et puis j'ai raccroché.
Et plus de nouvelles?
Plus de nouvelles. Il m'a dit, je suis trop âgée, elle est décédée, ok. Je n'irai pas aux obsèques de ma sœur. Il m'a répondu comme ça, mais quant à mon identité, il était bien, bien sceptique quand même.
Et les autres membres de la famille? Que se passe-t-il avec eux?
Du côté de l'Afrique, ben, ils sont en Afrique et je n'ai plus de nouvelles. Maman a coupé les ponts immédiatement quand on est rentré en France.
Mais pourquoi?
Parce qu'elle avait peur de la sorcellerie, disait-elle. On allait la retrouver, on allait lui faire du mal. Ils avaient eu mon père, il aurait elle aussi et il nous aurait peut-être nous aussi. C'était sa devise, elle avait peur de la sorcellerie. Donc on a vécu un petit peu caché. Elle a repris son nom de jeune fille et puis elle a vécu comme ça des années en France sans que personne ne sache qu'elle était à Marseille.
Alors, donc là, vous faites aussi votre propre vie. Comment ça se passe? Vous faites des rencontres?
Je me défends. En fait, quand j'ai eu ma majorité, j'ai dit je vais me venger et je suis une grande personne. Je n'ai vraiment aucune épaule. Il faut que je me loge. Du coup, j'ai eu mon bac en juillet. En août, j'ai trouvé du boulot. Entre juillet et août, j'ai zoné dans un foyer appartement payé par l'État. Enfin, on me demandait une petite participation. Il y avait les francs, c'était 400 francs. Donc, j'ai fait un peu des heures de ménage pendant un mois. Puis, j'ai eu la chance de trouver un travail de secrétaire en stage. Pendant 6 mois de stage, j'ai appris le métier. Puis, on m'a gardé et j'ai exercé pendant 5 ans dans la même entreprise.
Est-ce que c'est à ce moment-là que vous tombez amoureuse, hein?
C'est là que je tombe amoureuse d'un homme. C'est là que je décide de... Puis de... mon corps change. En fait, je m'aperçois que j'ai le désir de materner. Je cumule les grossesses nerveuses parce que vraiment, j'avais ce besoin d'être maman. Puis j'ai rencontré un monsieur et puis j'ai été maman. Après, ça n'a pas spécialement fonctionné, mais voilà, mon rêve était là. Et puis ensuite, j'ai décidé, quelques années après, de refaire ma vie. Et là, j'ai rencontré le père de mes filles, mes dernières petites, où j'ai vécu l'enfer avec ce monsieur qui, je ne savais pas, était toxicomane, alcoolique, joueur, menteur et tout ce qui va avec.
Et sans même vous rendre compte que c'est un homme... Donc toxique.
Je n'ai pas pu la chance, disons qu'il ne parlait pas beaucoup, c'était plus moi qui avais besoin de lui parler de mes relations avant, puis de mon passé avec ma maman, et j'avais envie d'être protégée, d'être chouchoutée, de croire en fait que c'était le bon, sauf que... en fait, je me suis rendu compte qu'il consommait des stupéfiants, qu'il avait des troubles de l'humeur. Quand j'essayais de discuter avec lui, ben, j'avais toujours tort. Et puis, il cassait tout. Il m'envoyait des choses sur la tête. Il cassait les meubles. Il me bousculait. Il avait une force herculéenne. Ça, c'est l'alcool qu'il consommait. Alors, il me disait, mais c'est pas grave, bébé. J'ai bu que 30 pastilles aujourd'hui. OK, pour moi, c'était impossible. Il me fallait un miracle, quoi. Après c'était pas ça, c'était les stupéfiants, les extasies, il m'a fait passer par toutes les couleurs de la drogue qu'il consommait à travers son comportement détestable et qui me faisait énormément peur.
Oui, il était violent et en même temps, il s'excusait, il pleurait.
Il pleurait, il tapait sa tête par terre contre le carrelage pour se punir de ce qu'il faisait. Puis le lendemain, il me faisait le café. Je n'étais pas bien réveillée. Il m'apportait un café. Il me disait « Pardon, bébé, je ne recommencerai plus. Ça y est, chérie, j'ai compris. » Je lui ai fait confiance longtemps. Les enfants étaient jeunes. J'ai essayé. Puis j'ai baissé les bras, en fait, parce que j'ai décidé de ne plus être déshonorée dans mon logement. J'ai décidé que les cris, les reproches, les disputes et les cassages de choses allaient cesser. Du coup, quand monsieur était épouvantable ou qu'il rentrait à n'importe quelle heure avec de la violence, je ne disais plus rien pour éviter le scandale.
Est-ce que à un moment donné, vous vous êtes dit, faut que je parle avec la police, est-ce que je vais prendre contact avec un commissariat?
Ben en fait, j'essayais bien de me défendre, de prendre le téléphone, sauf qu'il cassait tous les appareils. Quand il me tapait, il cassait tous les appareils, de sorte que je ne puisse pas me défendre. Donc, il est parti plusieurs fois de la maison. Il nous a laissé une première fois un mois, une deuxième fois un mois, une troisième fois 5 mois. Sauf qu'une coordinatrice de la police de Noailles est venue chez moi. Elle m'a d'abord téléphoné, puis elle m'a dit « Vous avez peur du déshonneur ? Je vais vous faire peur. On va venir vous chercher. Vous allez témoigner, vous allez demander le divorce. » Et moi, en fait, j'étais habituée à ce qu'il aille, il vienne, il parte, il rentre à sa guise. Et j'étais complètement impuissante, en fait.
Mais est-ce que, justement, ces paroles ont provoqué quelque chose en vous? Ça a déclenché, justement, peut-être ce fameux divorce par la suite?
Ça a déclenché, effectivement, une demande de divorce de ma part. J'aurais aimé la faire pour faute, sauf que j'ai privilégié les enfants et je ne voulais pas qu'il y ait la guerre ni contre leur père ni contre moi. Et donc on a fait quelque chose à l'amiable. On a essayé de... Et je n'ai plus du tout de contact avec cette personne aujourd'hui. Les enfants aussi savent pourquoi. Eux voient leur papa, mais leur papa a des problèmes, je pense. Il devrait voir un médecin, je pense. Parce que cette violence, il l'a toujours eue, en fait. Ne serait-ce que par le silence, il avait de la violence. Il se mettait dans un angle de mur de la maison, on va dire de la chambre, par exemple, tout droit, avec un regard d'assassin qui ne me permettait pas le moindre mouvement. Je me disais, si j'avance, il me fonce dessus. Si je recule, il me court derrière. Je ne bougeais plus du tout et j'attendais que ça passe, que son comportement cesse.
Mais il se comportait comment alors? Il se comporte même peut-être encore maintenant avec vos enfants? Est-ce qu'il est violent
enfants,
ou pas?
Avec mes enfants, mon fils a 34 ans, sa sœur a 29 ans et sa petite sœur a 27 ans. Donc ce sont des grandes personnes aujourd'hui qui le remettent à sa place quand il le mérite. Donc cette fois-ci, avec les enfants, il n'a pas le pouvoir. Simplement avec moi, avec sa partenaire d'avant, ça a toujours été le même cinéma. On est des folles, on est des putes, on est des merdes. Excusez-moi de dire des choses comme ça, l'antenne. On ne vaut rien. C'est de notre faute. Tout ce qui se passe, on est moche. On n'a aucune qualité finalement. Du coup, on a juste le droit de se taire et de subir et de payer, évidemment, parce que ce genre de personnes ne sont pas très autonomes financièrement. Ils gaspillent tellement d'argent dans les bars et dans la drogue, ils ne servent plus à rien en fait dans la maison. Donc on les subit et c'est de notre faute, on doit se taire, on a le déshonneur. Les gens qui nous voient disent « Oh, c'est bizarre, c'est... » Les gens qui nous ont vus nous séparer ne comprenaient pas, ils disaient quand même « Vous avez des enfants magnifiques, vous êtes deux beaux jeunes. » En fait, il y avait tout le temps du cinéma chez moi, des meubles cassés.
Donc, il y a eu le divorce.
Il y a eu le divorce.
Et après cette première expérience,
j'ai essayé de rester. J'ai plus fait confiance aux hommes au départ. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui n'avait plus mon âge. Cette fois-ci, j'ai pris quelqu'un de plus âgé, pensant que 15 ans de différence, je trouverais enfin le repos et cet amour que je cherchais. Incroyablement. Ça a bien fonctionné au début. C'était vraiment un protecteur. Il faisait beaucoup de choses pour moi.
Vous avez donné votre confiance, confiance rapidement avec cet homme.
Ah oui, il a connu mes enfants. Il les a élevés d'ailleurs un petit bout de temps. Puis moi, il m'a chéri au départ.
Il s'est présenté comme le Seigneur, le beau sauveur.
Le
quoi.
Beau sauveur. Monsieur avait un voilier. Il était open pour tous. Les enfants, il n'en avait jamais eu. Mais les miens étaient les siens. C'était une situation idyllique. Mais j'ai eu le tort de me laisser manier, on va dire, peut-être, par mon vécu. Et cette personne a pris toute la place. C'est-à-dire que je n'avais pas de portable. Donc, pour savoir ce qui se passait dans ma vie, il fallait que je lui demande, par exemple, d'interroger mon compte sur son téléphone. Je n'avais droit à rien, en fait. Le choix de mes vêtements ne m'appartenait plus. Ma coiffure non plus. Ma posture non plus, ne serait-ce que dire merci à quelqu'un, je n'en avais pas le droit. Sinon, il levait les mains en direction de ma figure pour me taper. C'était des avertissements.
C'est incroyable. Comment a-t-il pu avoir une telle emprise sur vous au point de boycotter vos vêtements et votre féminité ?
Je pense qu'il a compris que j'étais seule au monde. Et ça a été toute la différence, que je ne me plaindrai jamais à mes enfants parce que je ne voulais pas les inquiéter. Ils me pensaient sauvés dans de bonnes mains. J'ai même quitté Marseille pour Martigues. Et puis, finalement, je me suis retrouvée seule et piégée par cet homme sans savoir où aller. Il ne voulait plus d'appartement, il m'a fait acheter un voilier. Donc, j'ai acheté un voilier, je me suis endettée toute seule. Il s'avère que ce voilier ne fonctionnait pas. Il m'en a fait acheter un deuxième. J'ai refait un crédit pour lui parce que, en fait, je n'avais plus de personnalité. Il avait raison sur tout, moi sur rien.
Il avait une emprise sur vous.
Oui, totalement. Il répondait à ma place quand on m'interrogeait. Et ça a toujours été comme ça pendant les 9 ans qu'on a vécu ensemble.
9 ans, vous vous rendez compte hein. Il avait le pouvoir de tout, le pouvoir de décision sur votre propre salaire. C'était lui qui gérait tout.
Oui.
Comment, psychologiquement, comment avez-vous géré cette dépossession financière au quotidien ?
J'ai supplié le Seigneur, parce que je suis croyante, de m'enlever la vie pendant des années. Non, mais c'est sincère. Oui. Parce qu'en fait, quand j'essayais de me défendre, j'ai bien essayé de me défendre, souvent. Simplement, il déclenchait une dispute incroyable. Et il claquait la porte du voilier, il disparaissait pour la journée entière. Je ne savais pas ce qu'il faisait de sa journée. Il rentrait vers 19h le soir, tout content. Moi, j'avais passé ma journée à pleurer dans le bateau.
C'est incroyable. Et mais à un moment donné, les choses ont pris un tournant encore plus sombre.
Oui.
Il y a eu un accident.
Et oui, il a fini par me sauter dessus, me projeter sur le lit de son haut de 1m85, 90 kilos. Il m'a coincé, les jambes écartées sur moi, il m'a étranglé. J'ai failli mourir. J'ai pensé que là, c'était la fin des haricots. En fait, je me suis dit, c'est bon, en fait. Voilà. Puis il a lâché et j'ai pu respirer. Et je ne suis pas morte. Je l'ai maudit de toutes mes forces.
Bien sûr.
Je l'ai maudit de toutes mes forces. Simplement, je ne suis toujours pas allée à la police, même à l'heure actuelle. J'ai un problème avec la police, dans le sens où j'ai essayé de dénoncer dans ma vie des faits de violence subis. Et puis, on n'a pas pris en compte ma sincérité. On a rigolé et je suis repartie bredouille.
Donc, vous nous dites que la police, c'est la police.
La police qui...
Ils ont rigolé.
Là, quand j'étais jeune à l'époque, j'ai eu cette expérience dans ma vie d'avoir pris une raclée et d'être allée déposer plainte. Les policiers étaient 3. Ça m'a complètement traumatisée. Et du coup, je ne vais plus à la police.
Bon alors, voilà. Soyons clairs, heureusement qu'ils ne sont pas tous comme ça.
Bien sûr.
On a besoin d'eux, justement, pour...
Évidemment, on a besoin d'eux, il faut qu'on soit fortes. Voilà. Simplement, moi, pour le moment, j'en suis encore là. Je veux dire, je pourrais demander le divorce ou le faire condamner. Pour le moment, je suis encore castrée, quoi. Voilà, je suis encore coincée par tout ça.
Du coup, donc, là, vous êtes... vous vous dites dans votre tête, je n'ai pas l'aide de la police. Donc, vous essayez de contacter des associations, plusieurs associations, mais
exactement.
Sans réponse. Et là, vous avez eu la chance d'avoir une réponse de l'association Henriette, la voix d'un ange.
Et voilà.
Qu'est-ce que ce premier contact avec Josepha a changé en vous ?
Ah ben, ça a tout changé en moi parce que j'étais complètement désespérée. Je ne savais plus vers qui me tourner. Aucune association ne me répondait. Un soir, je reçois un coup de fil à 19h. Je me dis non, c'est pas possible. Ça doit être une blague. C'était Princesse Josepha Malherbe qui me contactait suite à une demande d'emploi de ma part. Hein. Je cherchais du boulot. Je voulais m'en sortir. Ou du boulot, faire une formation, quelque chose. Et Josepha me tend la main. Je lui raccroche sur le coup, puis elle me rappelle, elle se présente et je dis « Dieu bénisse ». Et nous avons commencé à échanger, on s'est vus plusieurs fois. Elle m'a aidé à libérer la parole, elle m'a aidé. Si vous voulez, je ne pleure plus, tout est là. Simplement, je ne veux pas depuis des années, parce que j'ai l'impression que je ne me relèverai pas. Quoi. Il faudrait que je pleure des kilomètres. Hein. Du coup... je garde tout ça et Josepha m'aide beaucoup dans ma lutte aujourd'hui. Voilà. Pour comprendre, ne serait-ce que ce n'est pas moi la fautive, mais que je suis la victime.
Comment a-t-elle réussi à vous faire comprendre
elle m'a
tout
beaucoup,
ça
par la parole. Elle m'a persuadée de parler, d'écrire même, de coucher sur le papier tout ce qui n'allait pas, de crier, de pleurer, de me battre. Au lieu de me dire, tu n'as pas le droit de pleurer, tu es une grande personne maintenant, c'est fini tout ça. Non, Josepha me dit, il faut encore pleurer, puisque le mal est encore en toi. Il faut lâcher tout ça. C'est un gros travail que je suis en train d'aborder. Ce n'est pas simple du tout. Parce que, voilà, j'ai refait ma vie. Je ne me sens pas de pleurer devant mon homme, de remettre tout ça sur le tapis. Je suis rarement seule. Et puis pleurer une fois, ce n'est pas suffisant. Comme je vous dis, il faudrait que je pleure pendant des jours et des jours pour évacuer tout ce chemin.
Comment cette nouvelle vie maintenant vous a-t-elle redonné confiance en vous au point de pouvoir dire « je suis belle, je suis intelligente, maintenant vous êtes une autre femme ».
Alors, je suis peut-être une autre femme. C'est beaucoup Josepha Malherbe qui me soutient dans ce sens-là, parce que quand on vous a dit pendant des années que vous n'êtes pas belle, vous le croyez. Du coup, vous ne vous maquillez pas, vous dites à quoi bon, vous ne faites pas certaines choses, parce que pour vous, ce n'est plus nécessaire. Vous avez admis le fait que vous n'êtes pas belle, de toute façon. Simplement, moi, je me dis, belle ou pas belle, ça ne changera pas qui je suis. En fait, ce qui est important, c'est moi à l'intérieur. Donc, j'essaye de me battre comme ça, quoi, en fait.
Quel est le message le plus important que vous voudriez adresser à celles qui nous écoutent et qui, comme vous à l'époque, se sentent coupables ?
Alors, moi, ce que je voudrais surtout qu'elles fassent, c'est surtout ne pas refaire ce que j'ai fait moi, garder le silence. Surtout, surtout, surtout pas. Allez voir n'importe qui, votre voisin, votre famille, une autorité compétente, une association, mais surtout ne vous enfermez pas. Ça peut durer des années cet enfermement, et moi j'en suis victime parce que je suis encore castrée par le mal qu'on m'a fait. Il y a des fois mon compagnon qui vient gentiment pour me poser sa main sur les épaules, j'ai un réflexe de peur qui m'en colle une alors qu'il ne m'a jamais tapé. Donc j'ai des moments comme ça. Toutes les privations affectives et psychologiques me reviennent. C'est très difficile aujourd'hui de m'approcher. J'ai toujours une petite inquiétude, une petite peur derrière du mal qu'on est susceptible de me faire.
Merci beaucoup, Sandrine.
Merci à vous.
Alors, pour que ce soit utile pour nos auditeurs, nous ne pouvions pas parler de ce sujet sans un expert, Josepha. Maintenant que nous avons écouté ces témoignages, j'aimerais qu'on aborde le rôle de votre association, Henriette, la voix d'un ange. Alors, votre association porte un nom très poignant en mémoire de votre sœur, Henriette, qui a été victime de violences. Pouvez-vous nous présenter votre association, ses missions et ses valeurs ?
Avant de présenter l'association, je suis très émue par le témoignage de Sandrine et puis... et de Alexis, parce que voilà, l'écoute de sa mère, l'appel d'Ayem et tout ça, donc ça m'a transporté, la chanson elle est poignante. Donc voilà, c'est quand on est dans un studio comme celle-ci, je te remercie déjà du fond du cœur, Sabrina, d'avoir pu fait cette interview parce que voilà, je remercie aussi le studio voilà, Mistral qui a
Fréquence Mistral.
Fréquence Mistral, pardon, qui a permis que nous puissions être là. Donc merci pour ton accueil chaleureux déjà parce que tu es une femme lumineuse et tout. Et merci aussi pour tout ce que tu fais, parce que nous vivons grâce à toi, ce petit tutoyer, si tu me permets, donc que nous puissions être là. Et puis Alexis, vraiment ta chanson, elle est touchante et tout ça. Donc voilà, donc je suis encore très émue. Et l'association Henri Lavoie de l'Ange, comme tu viens de le dire.
Vous pouvez vous approcher du micro, s'il vous plaît, pour qu'on puisse mieux vous entendre.
Ben oui, ben parce que là, vous m'entendez là. Donc oui. Voilà, donc c'est bien. Donc l'association Henri Lavoie de l'Ange a été créée à la mémoire de ma sœur, Henriette, qui était victime de violence. Elle en est morte sous les coups de son mari. Elle avait 27 ans, elle était enceinte de 3 mois. Donc ça veut dire qu'elle est morte avec un enfant. Donc vraiment, elle est morte, j'avais 14 ans. Donc, je me suis dit, donc voilà, il fallait que je fasse quelque chose pour pouvoir stopper... et faire continuer à vivre sa mémoire et puis aussi dénoncer cette violence et essayer de les faire stopper à travers mon association que j'ai créée qui porte son nom.
Alors, on parle du livre ?
Oui.
Parce qu'on est obligé de le dire quand même, que vous avez publié un livre, Les larmes d'Henriette. Encore une fois, c'est un témoignage bouleversant. Et la question, parce que pourquoi je reviens sur le livre ? Parce que j'ai une petite question depuis tout à l'heure à vous poser, chère Josépha. Comment l'écriture est-elle devenue une thérapie pour vous ? Et est-ce que c'est une façon aussi de donner une parole à celles qui n'en ont pas ?
Oui, c'est une parole de donner à celles qui n'en ont pas et dénoncer à travers l'écriture. Parce que normalement, le livre est venu parce que ma sœur, elle est morte, j'avais 14 ans. Le but pour moi, c'était d'en découdre, parce que quand on a 14 ans, on se dit sa sœur, elle est morte, et qu'on ne savait pas que c'était mon beau-frère qui était passé à l'acte et tout, on a su un an après. Donc voilà, on a pleuré avec lui, on l'a accompagné, c'est un an après qu'on a su que c'était lui. Et quand on a su que c'était lui, effectivement, c'était déjà trop tard, parce que ma sœur était déjà enterrée, et on a les parents qui nous soutiennent et qui nous disent, bon... essayez de vous calmer, ne passez pas à l'acte, pardonnez, avancez, c'est impossible. On dirait une ado de 14 ans d'avancer, non, moi ça bouillonnait, moi il fallait que j'aille le tuer. Moi je voulais le tuer, moi je voulais tout faire pour aller tuer mon beau-frère. Mais une raison de plus pour les messieurs, les parents, parce que quand on peut subir la violence, et celle ou celui qui a subi la violence, qui est témoin de cette violence, peut aussi commettre la violence. Donc, c'est un côté à double tranchant, d'où moi, je voulais qu'on mette ces violences-là. Mais grâce aux parents qui nous ont canalisés, qui nous ont dit, écoutez, si vous passez à l'acte, je perdrai un autre enfant. Ça veut dire que vous devenez violent comme lui. Et si moi, je passe à l'acte, au vu de tout le monde, parce que lui, il était machiavélique, il a fait dans le côté sournois, et votre soeur est partie, je perdrai les enfants, je me retrouverai en prison. Et si, il faut écouter les parents qui parlent avec sagesse. Et si... Et effectivement, cet homme-là, vous allez le tuer, vous allez vous retrouver en prison. Donc, ce que vous deviez faire, ce que moi, je vous conseille de faire en tant que parent, c'est moi qui devais passer à l'acte, je ne passe pas à l'acte. Moi, je vous demande de ne pas passer à l'acte, mais de travailler le pardon. Parce que votre soeur ne reviendra pas. Et moi, c'était compliqué. Je ne pouvais pas. Ça bouillonnait, il fallait que je fasse quelque chose. Donc, ma soeur était comme une mère pour moi. Donc, c'était ma meilleure amie, les premiers strings, les premiers rouges à lèvres, je piquais chez elle et tout. Donc, les parents nous ont canalisés de cette manière-là, mais moi, j'ai commencé donc à écrire. À l'époque, il y avait les radiocassettes, à enregistrer mes douleurs, ma peine et tout, ça m'a servi de thérapie. Et ça a permis que je puisse avancer dans le pardon dont les parents voulaient que ça puisse se faire, mais moi, le pardon est passé par l'écriture, pour que je puisse vraiment... Parce que même un psychologue à 14 ans, je crois peut-être que nous ne pourrions pas enlever la boule qui était là. C'était très fort parce que pleurer avec voir votre soeur qui est partie et le bourreau, il est là, vous le voyez, il a refait sa vie. C'est compliqué. Moi, l'écriture m'a permis que je puisse avancer et puis voilà, ça m'a servi de thérapie et d'essayer aussi d'enlever cette boule qui était à l'intérieur de moi.
Alors, où peut-on acheter votre livre ?
le livre
Les larmes d'Henriette,
c'est l'édition La Bruyère déjà. Donc voilà, c'est l'édition La Bruyère. Vous pouvez le commander partout, que ce soit chez Amazon, que ce soit, si je peux le dire, que ce soit à la Fnac, que ce soit aussi à la librairie près de chez vous. Ça vous descend de chez vous, les larmes d'Henriette. Moi, j'ai voulu que ce soit une visibilité vraiment, que les gens puissent le lire, c'est une manière pour moi de dénoncer, de que que la mémoire de ma sœur continue à vivre à travers ce livre-là. On peut le procurer partout. Donc, j'essaie de faire les dédicaces un peu. Je fais un peu le tour de la France pour essayer de faire des conférences, de témoigner, d'accompagner, d'aider, donc voilà, et d'avancer.
N'hésitez pas à lire le livre « Les larmes d'Henriette » édition La Bruyère. Au-delà du livre, vous produisez et organisez de nombreuses actions de sensibilisation. Vous pouvez nous raconter un peu ?
Oui, donc voilà, l'association Henriette, la voix d'un ange avant le livre et tout, donc a été créée. La thématique, c'est non aux violences à travers la musique. Parce que vu que j'ai pu évoluer donc, dans la chanson, donc, dans le sport et pas mal de choses et tout, je me suis dit, il faut une thématique derrière. Parce que quand on parle des violences faites aux femmes, et comme Sandrine venait de le dire tout à l'heure, elles n'arrivent pas à sortir la parole, à dénoncer. Elles ont cette frustration-là. Elles se disent, si je vais dénoncer, j'ai l'impression que ma vie sera vue de tout le monde. Donc elle a honte, elle s'est dit que c'est ma faute parce que le bourreau lui dit c'est ta faute. Donc elle n'arrive pas à le faire. Dans l'association Henri de la Voix d'un ange, la thématique non violence à travers la musique. À travers la musique, j'organise un concert une fois par an. Donc je fais venir des artistes et voilà, grâce aux artistes et tout, nous essayons de gérer cette thématique là à travers la musique. Et d'où j'invite les concerts et tout, je rencontre les femmes qui viennent à ce concert parfois, et à travers le concert, subtilement, on arrive à parler ensemble. Voilà.
Revenons aux victimes. Quels sont les premiers signes d'une relation toxique et comment peut-on les reconnaître, qu'on soit la victime ou l'entourage ?
C'est très compliqué, c'est très subtil. Déjà, je prends l'exemple de mon beau-frère. Il était fiancé à ma soeur pendant 7 ans. Donc, il a connu ma soeur, elle avait 20 ans. Il est venu demander la main. Mes parents ont dit non parce qu'elle était étudiante et tout. Donc, ma soeur, elle a eu sa licence. Il était chrétien, pratiquant. Et lui, il a eu son doctorat et tout. Pendant 7 ans, aucune nuance de violence. Il était d'une douceur, d'une beauté, il était serviable. Il avait tout ce qu'il fallait. Donc, ça, c'est ça. Le mec n'avait jamais crié sur ma soeur. Rien du tout. Il n'y a rien qui peut décider ça. C'est très compliqué parce que quand tu as en face de toi un pervers narcissique, si tu ne décèles pas tout de suite, parce que le mec qui vient, il te donne tout, l'amour, la tendresse, les fleurs, tout ce qu'il faut. En plus, il est toujours celui qui est toujours bien vu. Quand il arrive à la lumière et tout, comme mon beau-frère qui vient de nous voir et tout à la maison et tout, il était tellement gentil, il était tellement serviable, il était toujours bien posé. C'est-à-dire qu'on n'y avait pas ce nom de violence. Donc quand maintenant il est posé, ma soeur, c'est là où la violence commence, parce qu'elle était très belle, elle était magnifique, il commence à être possessif, jaloux, il était acolyte comme Sandrine l'a dit, parce que tu ne décèles pas ça, tu commences à le déceler. Mais ma soeur, ça n'a pas mis long, c'était 6 mois, hein. Il a tué après 6 mois de mariage, on n'a pas su que c'était lui, comme je vais me le répéter. C'est très difficile de déceler. Mais le conseil que je donne aux femmes, vu la situation que j'ai créée à travers la voix de l'ange, dès qu'il y a une gifle, déjà, il faut dénoncer. Il ne faut pas se taire. Il faut toujours dénoncer parce que ça commence comme ça. Et puis, après, c'est le pardon. Après, je t'aime. Après, les fleurs. Après, des roses. Après, les sous-vêtements. Après, le cinéma. Après, des voyages. Et tout, ça commence comme ça. Toujours. C'est difficile. Vraiment, je vous le dis, c'est très, très difficile à déceler. Et c'est très, très difficile aussi à déceler et rencontrer des femmes qui sont victimes de violence parce qu'elles le cachent tellement qu'on ne peut pas le savoir. Donc, il faudrait qu'on puisse trouver, qu'on puisse dénoncer le bourreau, mais aussi voir aussi les femmes, parce que les femmes, elles n'arrivent pas à le dire. Il n'y a pas seulement les femmes, il y a les enfants qui subissent aussi.
Mais comment peut-on vous contacter, si, par exemple, s'il y a une femme, on va dire, qui nous écoute et il se passe des choses comme ça dans sa vie, comment elle peut contacter votre association?
Je ne suis pas la seule association. Mon association, elle est là juste pour accompagner, pour aider, comme je suis avec Sandrine, je l'ai aidée. Donc quand elle m'a envoyé un courrier, elle était à la recherche d'un stage et tout, et elle avait du mal à parler, donc je l'ai rassurée, on a discuté, on a échangé, on a bu un verre, bref. Et là maintenant, je l'ai trouvé un stage. J'ai trouvé ça, je l'accompagne pour pouvoir avoir un logement et tout le reste. Mais la première chose à faire, c'est de contacter la police, d'appeler le 17, c'est très important. C'est un numéro danger mais immédiat.
Je suis d'accord, mais s'il se passe la même chose comme pour Sandrine, elle les a contactés, on rigole à son nez.
Oui, mais c'est quand même, c'est pas tous les policiers. C'est d'abord
attention, je suis claire quand même, ce n'est pas tous les policiers qui sont comme ça,
exactement.
C'est clair.
Exactement. C'est d'abord la première démarche à faire. C'est de composer le 17, d'ailleurs la gendarmerie, il y a la police, et de signaler les faits. Il y a un signalement des faits qui est su. Arrêtons les violences, lesviolences.gouv.fr.
Le problème, si je peux intervenir, c'est qu'on ne peut jamais faire ça. On a peur d'être tué. Moi, j'y ai pensé pendant que j'étais victime. J'avais peur que ça allait se savoir. Si j'allais voir la police, ils l'auraient su. Il m'aurait massacré.
Oui, Sandrine.
On a peur.
Oui, je sais, la peur, elle est là. C'est pour ça que je vais en venir. Donc, si on n'arrive pas, appeler la police. Parce que, comme elle a dit, Sandrine, elle a porté plainte lorsqu'elle était jeune et puis avant qu'elle puisse se marier et que la police l'a rayonnée. Ce n'est pas tous les policiers qui sont comme ça. Ça, c'est d'un. Et de deux, moi, je trouve qu'il faut se tourner vers les associations. Donc, je reviens là. Les associations qui sont mandatées pour pouvoir accompagner les femmes et les associations locaux qui sont là sur place. Il y a nous toutes aussi qui sont là sur place et tout, qu'on peut contacter. Il y a les associations qui sont pour accompagner. Et après, on peut parler aussi aux collègues. On peut parler à la famille. C'est très important. Aux voisins, aux pharmaciens, à son médecin, à l'infirmier. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui tendent l'oreille, parce qu'on oublie. Tu peux rencontrer ton infirmier si tu es malade. Tu parles à l'infirmier, tu parles à ton médecin, tu parles au pharmacien, au boulanger, à ta collègue, à ton frère, à ta soeur. Mais si tu as peur de parler à ton frère et à ta soeur, parce que tu dis, parce que nous, ma soeur avait dit à sa meilleure amie que si je parle à ma famille, mes frères vont aller le tuer. Donc, c'est double violence. Donc, elle a gardé pour elle. Elle est morte après parce qu'elle n'a pas pu le dire à la famille. Donc, maintenant, parce que moi, j'ai vu des femmes qui ont été victimes de violences que la femme, elle est partie dire à ses frères. Ses frères sont partis en deux côtes. Ils ont tué le mec. Donc, c'est exactement ça. Donc, le problème qui se pose, c'est qu'il faut parler à la personne qu'on voit en premier. C'est-à-dire qu'on se dise qu'on n'est pas seul. Ce n'est pas ma faute. C'est la faute de l'autre. Et déjà que la personne qui lève la main, il a aussi un problème. Le bourreau a un problème. Parce que moi, je fais un travail à double tranchant. Le fait que j'ai compris que mon ex-beau-frère, il est là, il était alcoolique. Il avait un problème psychologique. Donc, il faudrait qu'on puisse faire un travail pour eux. Il y a les psychologues qui sont là pour ça. Mais la première chose que la femme doit faire, dès qu'elle sort de chez elle pour aller au marché, peut-être pour aller acheter de la baguette, et pas le boulanger, et pas le commerçant du marché, parce que tu peux acheter peut-être les fruits et légumes, tu parles. Et aller directement dans les maisons associatives. Il y a aussi les assistantes sociales. Parce que tu sais, vous saviez, excuse-moi de te tutoyer, mais parce que là, voilà, c'est beaucoup plus chaleureux ici. Donc, c'est beaucoup plus convivial. Je me permets de te tutoyer, sûrement, désolée. C'est très convivial parce que c'est très familial. Vous nous avez mis tellement à l'aise, Sabrina, que je me suis permis de te tutoyer.
Mais avec grand plaisir.
il y a les avocats aussi, il y a les juristes. Il y a beaucoup de choses. Il y a les associations spécialisées. Comme je l'ai dit, par exemple, nous toutes qui sommes là. Donc, il y a tout ce qu'on a pu mettre en place et pour que les choses changent. Et je remercie nous toutes qui est là, qui donne les informations quotidiennement. Il y a les téléphones de SMS, il y a les téléphones privés, il y a le 3919, il y a le 112, il y a les téléphones malentendus avec les SMS où les femmes peuvent communiquer. On a tout fait pour que les femmes puissent communiquer. Ton fils, hein. Il faut parler à tout le monde, voilà.
Il ne faut pas se taire, surtout pas.
Surtout pas se taire. Surtout pas se taire. Libérer la parole et dénoncer.
Nous arrivons malheureusement à la fin, on a dépassé l'heure. J'aimerais vous donner à tous les trois un dernier mot de la fin pour les auditeurs. On va commencer par Sandrine, un dernier mot.
Oui, merci beaucoup de nous avoir écoutés et j'espère que le témoignage qu'on vous a apporté va vous aider, vous donner le courage de pousser des portes et de ne pas rester enfermé dans votre histoire et dans votre souffrance. Merci à vous.
Josépha.
C'est de libérer la parole et de reprendre le pouvoir sur son corps. Parce que quand on libère la parole, on reprend le pouvoir. Surtout, allez cogner les portes des associations qui sont là, qui sont mandatées pour vous accompagner. Vous n'êtes pas seul. Vous ne seriez jamais, jamais, jamais seul. Et merci encore à Alexis pour cette belle chanson. J'avais l'impression que tu l'as faite pour ma sœur. Parce que quand j'ai écouté cette chanson, j'avais les larmes aux yeux. J'avais l'impression que c'est ma sœur. Il nous l'a prise. Donc, merci, Alexis.
Beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
Merci beaucoup. Parce que cette chanson-là, il faut que beaucoup les gens l'écoutent. Et que nous puissions, à chaque manifestation, comme la journée internationale contre les violences faites aux femmes qui aura lieu le 25 novembre, que cette chanson puisse passer dans toutes les antennes. Oui. Merci Alexis et merci Sabrina parce que c'est très émouvant une fois de plus. Et merci à l'auteur qui a écrit cette chanson parce que j'ai l'impression vraiment que elle a été faite pour ma soeur. Hein, parce qu'elle est morte là, elle est partie. Mais quand je l'écoute, c'est vraiment... Et le prochain concert que j'organise, Alexis sera présent. Donc, c'est...
Avec grand plaisir.
Voilà, la date est déjà arrêtée. C'est pour les 10 ans de l'association qui aura lieu le 14 mars. Donc, il sera donc, avec Tiffany, une belle Marseillaise qui a un superbe album et tout. Voilà. Voilà, voilà.
Alexis.
Maman, pour mot de la fin, j'ai été très ému. Je le suis encore. Je voudrais vous remercier. Je suis désolé. Sandrine, d'être venue témoigner. Tu as, beaucoup de force et tu es très belle. Voilà, je voulais te le dire. Merci aussi à Princesse Josepha et à toi aussi Sabrina qui me soutient depuis toujours. Souvent on me demande qu'est-ce que tu attends de cette chanson, qu'est-ce que tu veux. Moi je veux rien de plus que les gens l'écoutent et que voilà que le maximum de personnes puissent l'écouter et que si ça peut aider des personnes, des femmes. Soit même des hommes aussi qui peuvent subir ça, mais ça peut aider dans les violences comme ça, ça ne devrait pas exister du tout. Voilà, c'est mon seul but. Donc encore un grand merci à tous. Et merci à Eliem aussi de la collaboration qu'on a eue ensemble.
Un immense merci à tous les trois. Un grand merci à Sandrine, à Josepha et Alexis. Merci aussi aux associations, à la police. Merci beaucoup à tous les trois, vraiment. J'ai envie de me répéter parce que vous avez été là ce soir. Merci pour votre présence et pour votre courage. N'oubliez pas le numéro d'urgence 3919. Le silence tue. Brisons-le ensemble pour qu'il n'y ait plus de victimes. C'était l'œil de Sab pour Fréquence Mistral. Merci à toute l'équipe de Fréquence Mistral. Et n'oubliez pas les amis, peu importe que vous ayez du style, une réputation ou de l'argent, si vous n'avez pas de bon cœur, vous ne valez rien. Et sur ces mots... On y va, on remet le titre, il nous l'a prise, interprétée par Alexis Hoffman, composée et écrite par L.I.M. avec le soutien de Fréquence Mistral. Bonne soirée à tous.
Elle tombe amoureuse, c'est le rêve du vie fabuleuse. Fonder sa famille, il en faut peu pour être heureuse. Mais quand l'amour frappe, on ne comprend pas. Et quand ça dérape, on ne l'entend pas. Elle est devenue peureuse, nerveuse, malheureuse. Avec lui, la moindre petite chose est dangereuse. À chaque fois, ça recommence et ça n'arrête pas. Sortir du silence est un long combat. Il nous l'a pris. Marquée par cette violence qu'on ne peut plus accepter. Elle garde le sourire mais ça ne va pas. Comment nous le dire si on ne l'écoute pas. Elle a le cœur abîmé, mal aimé par son bien-aimé. Quand l'amour donne la mort, personne ne peut le réanimer. Pour pouvoir la revoir, je fais n'importe quoi. À l'heure où je vous parle, elle n'est plus là. Il nous l'a pris. Dans le ciel, oui, pour l'éternité. C'est trop tard, elle nous a quittés. Parfois la fiction dépasse la réalité. Il nous l'a prise. Il nous l'a prise. Il nous l'a prise. Elle crie, elle pleure de tout son cœur, j'ai peur. Pourtant personne répond à son appel. Elle se retrouve toute seule. Elle se retrouve toute seule. Elle vit, elle